Johnny, je dérange?
Oh, ma voyance derrière!
Gravel dans le retour.
Bang, c'est ça!
Gravel dans le retour.
C'est ça que j'ai boum, tabarouette, on est dans le match.
17h06 à Boulevard, journée numéro 1 de la toute nouvelle programmation. Vous êtes dans le bout le plus banal où rien n'a changé. Gravel dans le retour. Toujours là, maintenant, une émission qu'on va qualifier de doyenne.
À 4 ans.
Pas drôle, hein? Ouais. Ben, il n'y a pas. C'est les chats et les chiens qui sont considérés comme adultes à 4 ans?
Les chiens, difficilement, les chats, probablement.
C'est pas 7 années par année normal?
Oui, non, t'as raison.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand t'as eu un chien une fois dans ta vie, tu réalises qu'à 4 ans.
C'est un grand ado.
C'est pas vraiment. C'est des bébés à vie.
Ils sont barrés à 12, hein?
Oui, c'est ça.
Ouais. L'espèce masculine humaine et les chiens, on est barrés à 12, ou à peu près. Problème de circulation, Audrey.
Si vous êtes en ce moment sur. En fait, l'accès pour Georges Muir vers Laurentienne Nord est partiellement entravé. Il y a une panne. Les policiers qui sont sur place, le remorquage qui est en cours au moment où on se parle. Si vous êtes sur la capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa, particulièrement difficile en ce moment. Direction Ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne que ça se passe. Il y avait d'ailleurs un incident un peu plus tôt sur Laurentienne qui a causé un bon ralentissement direction Nord de la capitale à la 76e rue Ouest. Des problèmes sur Henri IV Nord, ça se passe surtout, je vous dirais, entre Charest et la capitale. Direction Sud, ça se passe entre Chemin Sainte-Foy et les ponts. Si vous êtes sur Duplessis-Sud, même chose, le chemin Sainte-Foy au pont Pierre-Laporte, assez difficile de circuler. Charest direction Est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa. Robert Bourassa Nord, il y a encore des problèmes à la hauteur de Wilfrid Hamel. Route de Fossambeau, entre autres des Érables et de la Jacques-Cartier, toujours congestionnée. Si je transfère sur la rive sud, c'est la 20 direction Ouest à la hauteur de chemin des îles, surtout, c'est problématique. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre, c'est le 88-971-1021 par texto.
C'est pas à tous les jours que le premier ministre du Québec comparaît dans une commission d'enquête.
Témoigne.
Véro, question quiz.
Oui.
C'est quand la dernière fois que c'est arrivé?
C'est sûrement Jean Charest.
C'était Jean Charest en 2010 lors de la commission.
Ben, c'est arraché.
Et c'est une bonne réponse.
Hey, moi, aujourd'hui, t'as essayé de me coller sur Joe Beaucan, sur Marie-Carmen, mais
on recommence ses quiz. La politique. Denis, fais attention.
Oui, ça me permet de m'entraîner. J'aime ça.
Pour les gens qui ont écouté à l'époque les satellites popettes, trois morceaux de robot pour Véro. Le premier ministre François Legault, donc, qui a répondu aux questions de la commission Galant un peu plus tôt aujourd'hui. Et ensuite, ben, c'est son alter ego, ou presque, Martin Koskinen, qui est venu faire la même chose. Ouais. Certains vous diront que les deux hommes les plus puissants du Québec ont témoigné aujourd'hui devant la commission. D'ailleurs, elle fait partie maintenant de nos grands rendez-vous boulevard de la nouvelle programmation. À tous les midis, du lundi au jeudi, elle s'appelle Antonine Iacarini, et ça s'appelle le caucus Iacarini. Et là, ben, on est en overtime, Iacarini.
Yes.
Antonine, ça va bien?
Oui, vous autres?
Oui, ça va être le fun parce qu'une fois de temps en temps, on va continuer de se jaser.
Ben, j'espère bien.
Tiens, notre analyste politique préférée, on la perdra pas au complet quand même, là, tu sais.
Tout n'a pas été dit ce midi, là.
Non, il reste...
Ça s'est poursuivi cet après-midi.
Exactement, puis j'allais tout écouter, la commission pour vous aujourd'hui.
Yes.
Voilà.
Commençons par François Legault. Comment tu as trouvé sa performance, puis y a-tu des choses ce qui a dit que toi, tu as été surprise?
Non, il n'y a pas vraiment, eu de surprise. Hein? En fait, là, on revisite un peu les mêmes choses. Donc, tu sais, le fameux courriel de Geneviève Guilbeault qui dit qu'elle ramasse un merdier, une conversation concernant un tweet de Mitch Garber. On est un peu dans les mêmes événements, mais là, on les voit de la perspective du cabinet du premier ministre, donc de M. Legault, et cet après-midi de son directeur de cabinet, M. Koskinen. Donc, il n'y a rien qui a jeté personne sur le sol là, aujourd'hui. Puis on se doutait aussi, parce qu'un premier ministre et son directeur de cabinet, c'est à plus haut niveau, on n'est pas dans le fin détail. Donc, on se doutait que la réponse non, là, ça, c'est pas dans ce détail-là, on n'était pas au courant, etc., ça allait revenir régulièrement.
Est-ce qu'il y a une règle non écrite qui fait qu'un directeur de cabinet va nécessairement protéger le ministre qui est au-dessus de lui, puis qui ne dévoilera pas nécessairement toutes les informations, tout dossier confondu?
C'est-tu sa job aussi, dans une certaine mesure?
Bien, en fait, devant la commission d'enquête, un directeur de cabinet, oui, on a le réflexe de protéger nos élus, et c'est un peu une règle non écrite que le staff, les employés, sont un peu, je mets entre guillemets, moins importants. Donc, s'il y a quelqu'un à sacrifier ou qui va recevoir un peu plus de boîtes, ça va toujours être les directeurs de cabinet puis les autres employés. Par contre, dans une commission d'enquête, tu ne peux pas mentir. Là, fait que on est obligé de donner l'information.
Ça veut dire que dans le day-to-day, il y a de l'information qui ne se passe pas au cas où?
Oui, bien, on entend ça des fois. Hein. Je ne te mettrai pas au courant parce que je vais te protéger.
Ouais.
On, Oui, ça peut arriver, mais en fait, c'est juste une question d'efficience à un moment donné. C'est que chacun joue son rôle. Oui, le premier ministre va avoir une vision d'ensemble, mais il peut pas. On peut pas
les
faire
fins
des
détails, ça donne rien.
Oui, puis on peut pas faire des goulots d'étranglement. D'ailleurs, M. Koskinen, le directeur de cabinet de M. Legault, l'a bien expliqué aujourd'hui. Il y a des choses, c'est vraiment les relations de presse qui gèrent ça. Ils vont me lever un flag s'il y a quelque chose de très, très précis. Sinon, moi, j'ai affaire aux ministres. Même les directeurs de cabinet dans les différents cabinets vont plutôt passer par les conseillers du premier ministre. Donc, il y a une mécanique aujourd'hui qu'on voyait un petit peu plus dans le témoignage de M. Koskinen. Mais ce qu'on doit retenir, je pense, du témoignage de M. Legault, il a quand même dit on aurait dû tous poser plus de questions.
Pointe entre autres du doigt le ministre des Transports de l'époque de la CAQ.
Absolument, et son propre cabinet aussi. Là, moi, je le voyais vraiment comme un reproche, entre guillemets, généralisé de dire... Clairement, la SAC n'a jamais voulu donner un portrait là, très, très complet. Puis il faut le savoir aussi dans la relation que les élus, bien, les ministres, les cabinets ont avec leur ministère, organisme et société d'État. Une société d'État ou un ministère a toujours avantage à lever ces drapeaux-là, à aviser. Puis il y a une relation de confiance. Et on s'en va vers un dépassement de coût, on s'en va vers un projet qui ne va pas bien.
Faut le dire.
Faut le dire.
À moins d'avoir de quoi se reprocher.
Bien, c'est ça. Et là, on se retrouve, visiblement, là, on verra les conclusions du rapport Galland, mais on se retrouve dans une situation où tous les témoignages laissent entendre que la SAC ne faisait pas ça. Jamais on a dit « Hi, ça va mal, ce projet-là. » Oui, il y a un document, à un moment donné, dans le témoignage d'Éric Kerr, où est-ce qu'on voit que c'est au rouge, mais... ça fait quand même un bon moment, c'était avant le déploiement.
C'est-tu parce que c'est pas leur avantage de le dire que ça va pas bien, mettons, financièrement? Parce que je me dis, il y a sûrement une couple de projets qui passeraient pas si on prévoyait les dépassements de coûts.
Ça peut avoir l'air d'une bonne idée de banaliser puis de dire non, tout va bien, mais c'est jamais une bonne idée, tu fais juste pelleter par devant. Puis il faut dire aussi, il y a une enquête de l'UPAC en cours. Là.
Oui.
Donc, on parle de corruption, de fractionnement des coûts. Ça aussi, moi, je trouve que ça amène un éclairage important sur la commission. On n'aura pas les conclusions de l'enquête de l'UPAC avant le rapport. Oui. Et M. Galland le sait très, très bien. Mais c'est sûr qu'il prend en considération. Moi, je trouve que ça vient quand même appuyer un peu l'idée que la SAC ne donnait pas l'heure juste à tout moment, disons. Puis M. Koskinen, cet après-midi, donnait un exemple. Il dit, parce que évidemment, on leur dit toujours, OK, vous dites que vous n'êtes pas au courant, mais là, j'ai un courriel ici qui démontre que vous avez reçu 16 documents la veille d'une rencontre. Puis là, M. Koskinen est même devenu un peu émotif, défendre son ancien sous-ministre, M. Ouellet, en disant 16 documents de 20 pages la veille d'un meeting, c'est pas de la transparence. Vous nous inondez d'informations et on comprend pas c'est quoi l'essentiel de ce que vous essayez de nous communiquer. Il voyait au contraire, en fait, il voyait le contraire de la transparence.
On semblait mentionner, en fait, dans son témoignage cet après-midi, que lui, l'urgence, c'était de livrer quelque chose qui allait être fonctionnel et que les coûts devenaient secondaires. Il a même dit à un certain moment donné, hey, on va dépenser pour s'assurer que le lancement de sa clique se fasse bien, ce qui n'est jamais arrivé.
Non.
Est-ce qu'on a perdu à un moment donné le ballon dans le jeu à cause de ça?
En fait, c'est que quand on s'est retrouvé avec la crise des files d'attente, des gens qui n'arrivaient pas à déremiser leur véhicule, à obtenir leur permis de conduire, là, la priorité, c'est vraiment devenu les services. Et M. Koskinen a expliqué qu'il avait donné un mandat à un nouveau PDG, Éric Ducharme, de régler les problèmes, régler les bugs, mais surtout s'assurer que les gens auraient des services, puis les services auxquels ils ont droit. Ça fonctionne. Donc, il s'attendait à ce qu'on dépense plus et il y a des documents qui démontraient effectivement qu'il y avait des dépenses et c'était conforme à ce qu'il pensait. Mais ce qu'il plaide, c'est que quand le rapport de la VG qu'on a reçu en février dernier est sorti, là, on était rendu à 1,1 milliard et jamais personne n'est arrivé à ce montant-là. Puis c'est ça qui avait été mis en exergue parce que les ministres étaient sortis un peu en disant on savait pas, mais ça manquait de nuance. Ils savaient pas pour le 1,1 milliard, mais ils savaient qu'on était rendu à 600 quelques millions.
Ils savaient qu'on avait dépassé le budget de base.
Exactement, mais pas de cette ampleur-là. Mais évidemment, la politique, des fois, on tourne un peu les coins ronds. Les lignes de com' sont un peu simplifiées. Puis moi, je trouve qu'ils se sont fait pogner avec ça.
Antonine, à la lumière des témoignages du bureau du premier ministre aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'on a respecté la promesse qu'on avait donnée à Geneviève Guilbeault de la protéger?
Non. Puis d'ailleurs, je pense qu'il faut en parler de Geneviève Guilbeault parce qu'elle s'est fait lapider à la suite de son... témoignage mm-hmm. à la commission.
Ou elle se souvenait de pas grand-chose selon ce qu'elle disait comme réponse aux questions. Là.
Oui, puis je comprends aussi qu'elle a été critiquée pour certaines choses. Il y a eu des choses qui ont été dites que c'était pas tout à fait ça. Tout ça est vrai. Mais en même temps, c'est comme si elle a porté le chapeau hein, pour tout le gouvernement. Puis on comprend aussi qu'il y a un concept qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut se dire honnêtement que ce n'était pas elle la grande responsable du fiasco. Elle est arrivée quelques semaines avant le lancement. Et ensuite, effectivement, elle s'est retrouvée dans une gestion de crise. Est-ce que c'est important comment la crise a été gérée, ce qui a été dit, tout ça? Absolument. Mais est-ce que c'est elle qui avait le pouvoir de changer la trajectoire, autant au niveau du déploiement technique puis des services qu'on donnait à la population et du budget? Moi, à date, on ne me convainc pas. Là.
Dans un courriel, elle a parlé de merdier. À l'Assemblée nationale, elle a parlé de fouillis, mais d'une façon ou d'une autre, tu as l'impression que le mal était fait. Est-ce que c'est François Bonnardel qui va être la personne la plus imputable de tout ça auprès du gouvernement? Puis est-ce qu'on va servir du remaniement dans une certaine mesure pour passer des messages à ce niveau-là, d'après toi?
Bien, en fait, peu importe ce que le premier ministre fait avec son remaniement, on va y voir, nous, des messages. Parce qu'il va avoir une interprétation. Donc, c'est un jeu délicat pour le premier ministre. Moi, je pense que le cabinet de M. Bonnardel risque de se faire taper sur les doigts de ne pas avoir posé plus de questions. Est-ce qu'on va dire qu'ils ont mal agi, je pense que ça va être assez nuancé. J'ai l'impression aussi, à la lumière du témoignage de M. Koskinen cet après-midi, parce qu'à la fin, il a amené certaines recommandations à l'invitation du commissaire Galland qui a dit « Est-ce que vous auriez des recommandations? » Et M. Koskinen a dit quelque chose que moi, je dis dans toutes mes chroniques depuis des semaines et des semaines. 10 ans pour un projet informatique, ça n'a aucun sens.
C'est vrai.
C'est pas vrai qu'en 2015, ils ont dit ah, ça va coûter 450 millions puis que c'est ça qui va arriver à la fin 10 ans plus tard. C'est impossible.
Pour rien connaître la technologie, il ne faut pas avoir appris de projets précédents.
Puis après ça, ben, ce que tu fais, c'est que tu étales l'imputabilité auprès d'un paquet d'acteurs. Combien de PDG sont passés, de ministres qui sont passés, de sous-ministres qui sont passés? Donc là, on a comme cette attente de trouver un responsable et un ha-ha moment dans tout ce qui s'est passé, mais la réalité, c'est que c'est tellement dilué. Moi, je pense qu'une des recommandations, ça va être vraiment de limiter dans le temps. Il risque d'avoir des recommandations aussi, à mon avis, puisqu'il pose beaucoup de questions là-dessus, sur la manière dont on nomme les gens, parce qu'il a posé des questions sur les nominations des PDG, des présidents de CA, des gens qui n'avaient pas nécessairement les compétences pour gérer un projet numérique de cette ampleur-là, il faut le dire, puis on le voit, puis c'est patent, là. Donc, comment se fait-il qu'on nomme des gens autour d'un CA, puis à la société d'État qui n'ont aucune compétences en informatique, moi, je suis certaine que ça va faire partie des recommandations et même au niveau de l'autonomie des sociétés d'État, parce que M. Galland, aujourd'hui, posait beaucoup de questions là-dessus. Pensez-vous qu'il y avait trop d'autonomie? C'est dommage, parce que la plupart des sociétés d'État, comme je disais tantôt, il y a une relation de confiance et une transparence qui est là. Mais dans ce cas-là, bien, ça a démontré que finalement, quand on laisse aller, puis s'il faut que les ministres soient imputables de ça, moi, je pense qu'on va vouloir un resserrement. Si on est responsable de quelque chose, il faut avoir une emprise sur quelque chose. Et dans le cas de ce projet informatique, il y avait vraiment une grande, grande autonomie du côté de la SAC.
Antonine, le fait que c'est aujourd'hui que ça sorte, qu'on tire définitivement la plug sur les espoirs de revoir notre argent le dossier Nordvolt.
Qu'est-ce qui devait passer en douce? Les témoignages de la commission Galland ou l'annonce qu'on va essayer d'aller récupérer de l'argent qu'on verra
à quoi? Qui éclipse quoi, là? C'est quoi le but de la patente, là?
Bon, je pense pas qu'il y a grand-chose qui puisse éclipser le passage d'un premier ministre dans une commission d'enquête. Effectivement, ça arrive moins souvent que du tirage de plug sur des projets puis de l'argent public qu'on ne verra plus jamais. La preuve en est que Mme Fréchette, la ministre de l'Économie, avait aussi tiré la plug sur Autobus Lyon il y a quelques mois. Hein.
Oui.
Elle semble être en train de faire une espèce de ménage. On a l'impression qu'elle n'est pas du tout dans la même approche que M. Fitzgibbon.
Oui, M. Fitzgibbon avait laissé des affaires derrière lui avant de déménager, puis elle, c'est pas à son goût.
Elle pognait un petit peu avec ça. Non, mais c'est ça. Dans le fond, Nordvolt, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a quand même pas mal d'argent public qui avait déjà été dépensé, mais pas, je vous rassure, le 7 milliards qui avait été annoncé en grande pompe quand on a annoncé ce projet d'usine de batterie Nordvolt.
C'est 510 millions approximativement que le gouvernement a injecté dans ce projet-là.
Déjà injecté. Bon, on dit qu'on va essayer d'aller rechercher certains millions parmi ceux-là.
En vendant
bonne
terrain,
chance à tous.
Notamment, on verra. Mais bref, il y avait encore pas mal d'étapes pour que le projet arrive finalement à concrétisation. Ben, le gouvernement était devant un choix. Est-ce qu'on continue de mettre de l'argent là-dedans ou pas? Maintenant que la compagnie qui a fait faillite a été rachetée par une autre entreprise qui s'appelle Lighten, moi, quand ça a été annoncé, cette affaire-là, je suis juste allée voir le site web de Lighton. Mm-hmm. Moi, je trouve que les sites web, ça en dit long, moi, sur le sérieux de quelque chose. Disons que j'ai eu un certain doute. Après ça, j'ai fait un petit tour d'appel dans le milieu des affaires qui connaissent un peu cet écosystème-là. Puis les commentaires étaient pas très positif au niveau du sérieux. J'ai l'impression que l'impression que cette entreprise-là a donnée au gouvernement n'a pas donné confiance assez pour continuer de mettre de l'argent.
T'as vu ça où? Spotted service de marde?
Exact.
OK, c'est bon.
Sur
c'est
Facebook.
Bon. Une bonne source d'information.
Non, j'ai des pas pires sources. Cela dit, c'est terminé. Donc, il y aura plus... Ce projet-là est à l'arrêt complètement. Et le timing, comme on disait tantôt, est quand même notable en plein milieu de la commission Galant. Cela dit, à leur défense, on dirait que ces temps-ci, des éclipses, il y en a tous les
oui,
jours.
Effectivement.
C'est comme hyper touffu au niveau de l'actualité. Puis au moins, ils n'ont pas envoyé leur communiqué de presse un vendredi après-midi ou un jour de je ne sais pas quoi qui se passe avec les Canadiens de Montréal.
Antonine, en terminant, c'est quoi l'avenir politique de Geneviève Guilbeault?
C'est vraiment une bonne question. Moi, je ne pense pas... Je pense que peu importe ce que fait François Legault avec Geneviève Guilbeault, il va recevoir des tomates. Parce que si, évidemment, on ne la punit pas ou quoi que ce soit, il y a des gens qui vont dire ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas d'imputabilité.
Ouais, ouais.
Mais moi, je pense qu'il y aurait un backlash, donc un boomerang qui reviendrait si on punissait Geneviève Guilbeault pour ce qui s'est passé avec la SAC. Geneviève Guilbeault, des fois, dans les officines, dans les couloirs, on va dire « Ah, oh, c'est pas une joueuse d'équipe, là, là, là. » Sauf qu'elle en a pris des balles pour l'équipe. Là.
Sur donc, plusieurs oui, dossiers,
sur
effectivement.
Plusieurs dossiers est allé au bat. Puis on peut penser, évidemment, au troisième lien, notamment, qu'on lui a demandé de déploguer et de reploguer. On parle beaucoup de plug aujourd'hui.
Ouais, donc, c'est dans la thématique. Seule, en plus,
on l'a envoyé toute seule. Et pour sa clique, écoutez, peut-être que ça n'a pas été parfait, mais si le premier ministre dit « moi, je t'enlève ton titre de vice-première ministre, par exemple », c'est comme si on pointait du doigt et on disait elle a fait une faute. Et je pense que les gens... En tout cas, moi, je pense qu'il va y avoir un boomerang qui va revenir et que ça va lui être reproché à M. Legault. Donc, moi, je vais faire une gageure. Je pense qu'il va essayer de lui faire quelque chose de latéral. C'est pas nécessairement lui donner une promotion, mais pas non plus lui donner une démotion.
Fait qu'un ministère équivalent au ministère des Transports en gardant son titre de vice-première ministre.
Il y avait plusieurs rumeurs qui l'envoyaient au Trésor.
En fait, on pourrait faire le switch Sonia Lebel puis elle.
Ouais, ou Sonia Lebel à l'éducation, peut-être, et Bernard Drinville au transport, ou tout quelque chose comme ça, on ne sait jamais.
Porter le troisième lien.
La rumeur, c'est que c'est Benoît Charrette, ministre de l'Environnement, qui s'en irait au transport. Mais j'ai eu un doute pour le Conseil du Trésor, parce que quand même, dans ses témoignages, Geneviève Guilbeault, puis dans les courriels et tout ça, on a vu qu'elle tapait quand même pas mal ses fonctionnaires. Quand tu es président du Conseil du Trésor, tu es responsable de l'administration publique, donc des fonctionnaires, aussi. Des négociations.
Ce serait pas un bon message.
Je ne sais pas. Fait qu'on verra bien. De toute façon, on peut bien spéculer ce remaniement ministériel qu'on ne sait pas vraiment quand il va arriver.
Est-ce qu'on attendait de voir si François Legault allait sortir écorché journée pour prendre une décision?
Après la journée d'aujourd'hui, puis on verra les témoignages suivants, mais moi, je ne pense pas qu'on va repousser le remaniement à trop loin. Si ça s'était extrêmement mal passé, puis il fallait laisser la poussière retomber, la chaleur rebaisser.
On rentre dans deux semaines, dans le fond, au travail?
En fait, la session parlementaire était censée recommencer le 15 septembre. C'est quand même pas exclu pour laisser le temps aux ministres de prendre connaissance de leur dossier, qu'il y ait un petit report, une prorogation aussi, parce que ça peut être accompagné d'un nouveau discours d'ouverture, puis etc., etc. C'est une opération de communication qui peut être intéressante pour un gouvernement. Mais avec le témoignage aujourd'hui de M. Legault, je me dis, le remaniement devrait pas trop tarder.
Ouais. J'ai le même feeling. Antonine, on te retrouve demain midi avec Jeff, avec Pascal, pour l'émission On en jase, pour le rendez-vous, le caucus Iaccarini.
Pourquoi tu l'appelles le caucus Iaccarini?
C'est le nom de mon segment.
Complet. Je pensais que c'était juste le caucus, moi.
C'est le caucus, mais moi, j'aime ça que tu rajoutes mon nom de famille. C'est bon.
Tu le personnalises.
Ouais.
C'est bon, ça.
Bienvenue, en tout cas, dans l'équipe.
Merci.
Comment ça s'appelle, ce show-là? On en jase.
Ah oui, on en jase.
OK. Puis ça s'appelle le caucus, mais pas le caucus Iaccarini. Mm-hmm. Je trouvais ça super beau.
Écoute, moi, je suis pour ça, moi.
C'est beau. Je vais me finir par me démêler.
Le pit-stop gravel.
Oui, c'est ça. C'est pas comme si la nouvelle programmation commençait aujourd'hui.
Prends ton temps.
J'ai encore du temps bien en masse. Il est 5h25. On fait une courte pause. On revient. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour,